VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Camille Grosdidier et Michel Joseph, bonjour. Au sommaire de ce jeudi 7 mai 2015,
la crise burundaise a provoqué l'exode de près de 40 000 personnes qui ont trouvé refuge dans les pays voisins.
Un sommet régional se tiendra le 13 mai en Tanzanie pour tenter d'enrayer la crise politique au Burundi.
C'est Bernard Membe, ministre tanzanien des Affaires étrangères, qui a annoncé ce sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est le 13 mai à Dar es Salaam.
Tous les détails dans un instant avec Eddie Sango.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé en Arabie Saoudite pour discuter de la crise au Yémen.
La marche de l'opposition interdite par le gouvernement béninois s'est quand même déroulée mercredi à Cotonou.
C'est par ce cri que les militants des forces démocratiques de l'opposition ont entrepris la marche de ce jour pour dire non à la tentative d'arrestation de Kondida Zenaï.
On suivra le bilan de Peggy Ludovic Dagba.
La concentration de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère a atteint un niveau record au mois de mars à travers le monde.
Mais tout d'abord, le journal. La crise burundaise a provoqué l'exode de près de 40 000 personnes qui ont trouvé refuge dans les pays voisins. C'est ce qu'affirme un nouveau bilan communiqué mercredi par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Sur ce total, plus de 24 000 ont fui au Rwanda, près de 7 000 en Tanzanie et plus de 7 300 en République démocratique du Congo. Le HCR note en outre que ces chiffres augmentent rapidement et que nombre de réfugiés ne se sont pas fait enregistrer comme tels. Le bilan établi par le HCR porte sur le mois écoulé, mais la tension ne cesse d'augmenter, le parti du président Pierre Nkurunziza l'ayant désigné pour briguer un troisième mandat lors du scrutin prévu en juin.
Un sommet régional se tiendra le 13 mai en Tanzanie pour tenter d'enrayer la crise politique au Burundi. Le point avec Eddie Isango.
C'est Bernard Membe, ministre tanzanien des Affaires étrangères, qui a annoncé ce sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est le 13 mai à Dar es Salaam. C'était suite à la visite des quatre ministres des Affaires étrangères de la région à Bujumbura, où ils ont rencontré les présidents Nkurunziza, puis des leaders de la société civile et des partis politiques. Les chefs de l'État, Pierre Nkurunziza, déjà élu en 2005 par les parlements et réélu en 2010 au suffrage universel direct, a été investi le 25 avril par son parti, les CNDD-FDD, pour briguer un troisième mandat. Depuis, les manifestations quotidiennes sont sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Hier, dans certains quartiers de Bujumbura, des policiers ont ouvert le feu pour disperser les opposants et la tension a été vive entre les manifestants et les Imbonerakure, du nom d'une milice proche du pouvoir. Les violences ont fait 14 morts depuis les débuts des manifs. Craignant les pires, près de 25 000 Burundais ont fui pour se réfugier au Rwanda et en RDC.
Plus d'une cinquantaine de morts dans un village du nord-ouest du Kenya suite à des violences intercommunautaires liées à des vols de bétail. Selon la Croix-Rouge locale, 350 personnes ont dû fuir leur domicile.
Les attaques ont commencé lundi, précise la police, lorsque des assaillants armés ont attaqué un village turkana et volé du bétail, tuant également 7 personnes. Ce qui a déclenché des représailles des Turkana. Ce type d'affrontement, qui survient régulièrement dans la région, est devenu plus sanglant au fur et à mesure que les protagonistes accèdent aux armes à feu.
Burkina Faso, la veuve de Thomas Sankara, exilée en France depuis l'assassinat de son époux en 1987, sera entendue par le juge d'instruction militaire le 18 mai à Ouagadougou. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Mariam Sankara est attendue le 14 mai à Ouagadougou. Pour sûr, il y aura une marée humaine pour l'accueillir. Selon maître Benewende Stanislas Sankara, elle sera entendue le 18 mai par le juge d'instruction militaire qui s'occupe du dossier. Madame Sankara vit à Montpellier depuis 1987. Elle n'est revenue dans son pays qu'une seule fois, en 2007, 20 ans après l'assassinat de son mari Thomas Sankara. Au cimetière de Dagnoouin, dans l'est de Ouaga, une tombe affiche le nom du héros de la révolution burkinabé, mais ses restes n'ont jamais été identifiés. Le gouvernement vient de donner son feu vert pour l'exhumation du corps, dans le but de l'identifier formellement. Le capitaine Thomas Sankara, arrivé aux affaires par un coup d'État en 1983, a été tué 4 ans plus tard, lors du putsch qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. Monsieur Compaoré, après 27 ans de règne, a été renversé le 31 octobre dernier par une insurrection populaire.
Après avoir fait escale à Djibouti, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé en Arabie Saoudite pour discuter de la crise au Yémen. Ici à Aqaba.
Selon l'envoyé spécial de la VOA, Pam Dawkins, le chef de la diplomatie américaine, a aussi annoncé une nouvelle aide de 68 millions de dollars pour le Yémen. Ces fonds appuieront les agences qui fournissent vivres, eau, abri et autres à 16 millions de Yéménites dans le besoin. L'Arabie Saoudite, pour rappel, a mené des raids aériens au Yémen contre les rebelles chiites Houthis qui cherchent à renverser le gouvernement de Sanaa. Monsieur Kerry a rencontré à Djibouti le président Ismaël Omar Guelleh et son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Il les a remerciés pour leur assistance à des centaines d'Américains qui se sont réfugiés à Djibouti pour fuir la violence au Yémen, tout juste de l'autre côté du golfe d'Aden. Tout comme il l'a été en Somalie, John Kerry est également le premier secrétaire d'État américain à visiter Djibouti, où il a aussi rencontré les officiels américains au camp Lémonier. Cette base, dans l'ancienne colonie française de Djibouti, est devenue une partie importante de la présence militaire américaine au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 45 millions de Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives susceptibles de façonner l'avenir même du Royaume-Uni entre sortie de l'Union européenne et perte de l'Écosse. Des détails avec Morgane Guériec.
Plus de 3900 candidats dans 650 circonscriptions ont fait de la surenchère verbale. La Grande-Bretagne doit choisir entre le conservateur David Cameron, qui brigue un second mandat de 5 ans, et son challenger, le travailliste Ed Miliband. Les sondages projettent des résultats très serrés. Si les conservateurs l'emportent, ils veulent organiser un référendum pour rester ou quitter l'Union européenne. Une victoire des nationalistes écossais pourrait les encourager à revendiquer un nouveau référendum d'indépendance après le rendez-vous manqué de septembre. Les premiers résultats sont attendus autour de minuit en Écosse et à Londres, mais la tenue des locales, en même temps que des législatives, ralentira certainement le dépouillement et la proclamation des résultats définitifs.
La Grèce a honoré mercredi son versement de mai au Fonds monétaire international. Ce virement de 222 millions d'euros en intérêts s'est effectué comme prévu. Mais voilà, on ignore si Athènes sera en mesure de verser 1 milliard de dollars au FMI le 12 mai. Si la Grèce se retrouve en défaut de paiement, elle pourrait être forcée de quitter la zone euro.
Mardi, l'Union européenne a exprimé sa confiance, disant que la Grèce et ses créditeurs feraient tout leur possible pour éviter une telle crise et maintenir le pays au sein de la zone euro.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a conclu un accord avec le Foyer juif, un parti d'extrême droite, qui lui permettra de former une coalition gouvernementale, et ce, juste avant la date limite de mercredi minuit. Le Likoud, dont le chef du gouvernement est issu, et le Foyer juif doivent entériner leur accord. La coalition forgée par Netanyahou sera tout juste majoritaire, puisqu'elle ne regroupe que 61 des 120 membres de la Knesset.
Selon le Pentagone, des militants de l'État islamique menacent de prendre le contrôle de la raffinerie de Baïji, ce qui leur ouvrirait les portes de la ville de Mossoul. Déjà, affirme le porte-parole Stephen Warren, les militants contrôlent une partie des installations. Des unités irakiennes sont toujours retranchées à l'intérieur, mais toute tentative pour élargir leur contrôle donnerait lieu à des combats acharnés.
L'un des 6 policiers de Baltimore impliqués dans l'arrestation de Freddie Gray et qui doit répondre de plusieurs chefs d'inculpation, dont ceux de meurtre et de violence volontaire, affirme que le couteau dont était armé Gray était illégal. En conséquence, la police aurait agi conformément à la loi en interpellant le jeune noir. On fait valoir les avocats du policier Edward Nero qui demande à voir le couteau en question.
Le décès de Freddie Gray, de blessures survenues dans le fourgon qui l'emportait après son arrestation, a provoqué de violentes manifestations à Baltimore qui ont conduit les autorités à instaurer un couvre-feu levé une fois le calme revenu.
La concentration de dioxyde de carbone, le CO2, dans l'atmosphère a atteint un niveau record au mois de mars, dépassant pour la première fois le seuil des 400 parties par million. Selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique, ce seuil avait déjà été atteint en 2012 dans l'Arctique et à Hawaï en 2013. Mais voilà, c'est la première fois depuis que l'agence conserve ses statistiques que le seuil des 400 parties par million est atteint en moyenne dans l'ensemble du monde. Et maintenant, la Minute Éco avec Félix Yepasis Zimbrou. Bonjour.
Le Zimbabwe a lancé un appel à la reprise de l'aide internationale directe aux pays d'Afrique australe. L'ambassadeur américain à Harare, Bruce Wharton, a expliqué suite à cet appel ce que les États-Unis aimeraient voir s'accomplir avant de reprendre l'aide directe.
Nous pensons que le fondement de tout est la règle de droit. Deuxièmement, je pense à la mise en œuvre de la nouvelle constitution. Troisièmement, nous pensons que le respect clair de la propriété privée est absolument crucial pour relancer l'économie. Quatrièmement, enfin, il faut un cadre d'investissement très clair et transparent afin que quelqu'un qui pense investir au Zimbabwe sache clairement quelles sont les règles et qu'il peut compter sur elles sans variation
spatio-temporelle. La Commission européenne a lancé mercredi une vaste enquête sectorielle sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du commerce électronique au sein de l'UE. Cette enquête concernera autant les biens que les contenus numériques, ce qui place en ligne de mire les géants américains d'Internet comme Amazon et Google. Les assemblées annuelles de la BAD se tiendront cette année du lundi 25 au vendredi 29 mai 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Ces assemblées annuelles vont commémorer les 50 années de la contribution de la Banque au développement de l'Afrique et un nouveau président du groupe de la BAD sera élu.
On enchaîne avec les sports. Présentation Bagassikoura. Bonjour.
Oui, bonjour Camille.
Football européen avec la fin des demi-finales allées de la Ligue des Champions.
Hier soir, le FC Barcelone a pris sa revanche en humiliant le Bayern Munich 3-0, un doublé de Messi à la 77e et 80e minute. Et à la toute dernière minute du match, Neymar a marqué le but du KO. Autant dire que le retour en Bavière s'annonce difficile pour les Allemands.
Football au Bénin?
Oui, affaire du retrait de l'agrément à la Fédération béninoise de football. Un émissaire de la FIFA est à Cotonou pour constater les différents problèmes que le foot béninois traverse actuellement. Élisée Mpatine nous en dit plus.
Au cours de son séjour, Primo Covaro a rencontré les membres du comité olympique et sportif béninois, ceux de la Fédération béninoise de football et surtout le ministre des Sports pour justement rédiger un rapport à la FIFA. Et c'est par rapport à cela que l'instance qui dirige le football au niveau mondial va déterminer si le gouvernement béninois a fait preuve d'ingérence vis-à-vis de la fédération et surtout les sanctions qui vont suivre. Après avoir écouté tous les acteurs, Covaro, lors d'un point de presse, a rappelé l'importance de cette discipline.
La priorité pour nous tous, c'est que le ballon roule. Donc, il faut savoir réaliser cet objectif, bien en prendre conscience et pouvoir surmonter.
Élisée Rumpati, Boïcon, La Voix de l'Amérique.
Et puis en demi-finale du championnat nord-américain de basketball, eh bien toute la soirée, les Cavaliers de Cleveland ont largement devancé les Bulls de Chicago. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils se soient séparés sur le score de 106-91. Chicago n'ayant jamais rattrapé son retard. Par contre, les Houston Rockets et les Los Angeles Clippers étaient plutôt coude à coude durant toute la soirée. Mais voilà, le duel s'est terminé par la victoire de Houston, 115-109. James Harden a marqué 32 points. Enfin, quelques mots sur un scandale qui secoue le football américain avec la publication d'un rapport d'enquête de la NFL, la National Football League. Voilà, des employés des Patriots de la Nouvelle-Angleterre auraient volontairement dégonflé les ballons de football américain utilisé lors d'un match de championnat de l'association américaine. De surcroît, le quart arrière Tom Brady, vedette du Super Bowl, aurait été généralement au fait de la situation peut-on lire dans les conclusions de l'enquête. Brady a démenti avoir enfreint la moindre règle. Les ballons dégonflés sont plus faciles à agripper et à capter. Certains cars préfèrent les ballons qui contiennent moins d'air. Mais Brady a souvent répété qu'il n'a jamais demandé qu'on dégonfle les ballons en deçà de la limite permise. Voilà pour les nouvelles.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidier pour vous présenter les dossiers du jour. Au Nigeria, Maïtougouri, capitale de l'État de Borno et berceau des islamistes de Boko Haram, se remet progressivement des années de terreur. Toutefois, les nombreux déplacés qui y ont trouvé refuge ne savent où aller. Pour avoir une idée de la situation, Timothée Donongmaï a joint Maïtougouri, un habitant qui nous a souvent parlé au plus fort de la crise et qui, pour des raisons de sécurité, témoigne toujours sous anonymat.
Les gens circulent librement. Officiellement, il y a le couvre-feu à partir de 19h. Mais les gens circulent jusqu'à 10h, 10h du soir. Ils sont dans la rue et il n'y a aucun canon ni à la périphérie de la ville. Tout est calme. Les gens attendent le retour officiel dans leur village, dans leur localité. Et ce qui fait retarder les gens à retourner chez eux, c'est surtout le fait qu'ils n'ont plus rien à la maison. Les villages ont été calcinés. On a mis le feu sur toutes les maisons, toutes les écoles, et donc il y a tout à recommencer dans presque tous les villages. Et donc c'est ça qui fait retarder les gens. Mais si on leur donnait les moyens de rentrer avec les assurances d'abri chez eux, en tout cas tous les réfugiés que nous avons à Maïdougouri seraient déjà tous partis.
Le gouvernement continue d'annoncer la libération d'anciens otages de Boko Haram. Est-ce que vous en avez vu? Vous en avez des nouvelles?
On annonce des pareilles nouvelles tous les jours. Mais il faut être prudent, parce que ça fait plusieurs années que l'armée nous ment. L'armée est de connivence avec certains politiciens et les commandants des armées. Ils nous mentaient tous les jours, tous les jours. On nous dit toujours qu'on a récupéré telle localité, on a récupéré tel village, on a tué tous les Boko Haram, mais on ne les voit pas, on ne les voit jamais. On n'a jamais capturé, ne serait-ce qu'ils. Une personne à qui on peut poser des questions et qu'on peut voir sur un écran, même en train de passer un jugement public. Donc, on fait que dans nos têtes, cette histoire, ces agents Boko Haram restent comme des mystérieuses personnes. Et nous, on attend voir des gens. Il faut qu'on sache la vérité. Parce que je ne peux pas vous cacher, cette histoire de Boko Haram va laisser des rancœurs dans les cœurs de beaucoup de gens. Surtout, ceux qui ont souffert comme nous. On ne va jamais oublier ça parce que nous avons perdu des gens trop chers.
Que pensez-vous de cette offensive de l'armée gouvernementale contre la forêt de Sambisa où se seraient retranchés les insurgés de Boko Haram?
Ils font du théâtre, comme je vous dis. C'est des montages. Ils sont en train de récupérer les choses qu'eux-mêmes leur avaient prêtées. Maintenant que le contrat est résilié, et donc, c'est ce que la population dit, hein. C'est pas ma vision. Mais dans la rue, c'est ce qu'on raconte. Parce que depuis 6 ans, ils ont été incapables de démanteler l'endroit-là. Pourquoi c'est maintenant?
On écoutait un habitant de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, au Nigeria. Le Libéria en passe d'émerger de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Ce pays qui espère être déclaré libre du virus Ebola dans 2 jours, d'ici à samedi, a élaboré un plan de relance de son économie. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Faisant remarquer que son pays n'a pas enregistré de nouveaux cas ces derniers temps, le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie, Axel Hadi, a dit que la ligne d'arrivée est proche.
So May 9th is our magic date.
Ainsi donc, le 9 mai est notre date magique. S'il n'y a pas de nouveaux cas, et je pense qu'il n'y en aura pas, nous aurons atteint la date butoir. Certains centres de traitement ont été fermés et d'autres sont en train de l'être, a-t-il expliqué. Conscient que le virus Ebola pourrait réapparaître, le gouvernement a mis en place un système de gestion pour faire face à toute urgence, a indiqué Axel Hadi. Cela inclut la mise en place de l'infrastructure médicale appropriée, le traçage de tous les cas potentiels et la surveillance de la situation aux frontières, a expliqué le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie. En plus de la nécessité de renforcer son système de santé et de protéger ses citoyens contre une nouvelle épidémie, le Libéria est aussi confronté à l'immense tâche de relance de son économie. Avant que l'Ebola ne réduise tout à néant, le pays projetait un taux de croissance du PIB entre 5,9% et 7%. Avec les ravages de la crise sanitaire, ce taux s'est retrouvé en dessous d'1%. Selon le ministre d'État sans portefeuille Augustin Jarrett, l'Ebola a eu un effet de cascade sur tous les aspects de l'économie nationale, en particulier en ce qui concerne les principales exportations du pays, à savoir le caoutchouc et le minerai de fer. Des compagnies ont fermé, coûtant à des milliers de personnes leurs emplois. Les champs n'ont pas été cultivés, privant des milliers d'agriculteurs de leurs sources de revenus. Le pays doit diversifier son économie, a dit M. Jarrett, ajoutant que le gouvernement entend désormais accorder la priorité au secteur privé. Ce que nous avons vu depuis plusieurs décennies, c'est que la plupart des travailleurs étaient employés dans le secteur public et cela va changer. Nous nous focaliserons sur le secteur privé, les emplois et les investissements du secteur privé et tenterons d'orienter l'économie dans une direction où les acteurs du secteur privé seront les moteurs de la croissance et de la vitalité économique, a déclaré le ministre d'État libérien Augustin Jarrett. Le gouvernement libérien a su travailler avec ardeur à attirer les investissements privés pour aider à reconstruire les infrastructures, notamment à relancer les grands chantiers routiers et autres projets de construction à l'arrêt du fait de l'épidémie d'Ebola. Le secteur agricole qui emploie 70% de la force de travail au Libéria nécessite de grands investissements, estiment les autorités libériennes.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidier avec vous. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré que l'esclavage n'existe plus dans son pays, mais qu'il reste des séquelles. Il accuse les ONG de faire de l'esclavage un fonds de commerce. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ahmed Tidjane Diop, membre du mouvement abolitionniste IRA et directeur de campagne de Biram Oub Abeid, le militant anti-esclavagiste condamné à 2 ans de réclusion.
La vision du président Mohamed Ould Abdelaziz est une vision erronée quand il dit qu'il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. C'est une position qui a été toujours défendue par tous les esclavagistes, par tous les morts à la tête desquels se trouve Abdelaziz. Le dispositif que le président Mohamed Abdelaziz est en train de mettre en place prouve une fois encore que l'esclavage existe et existe bien. Si l'esclavage n'existait pas, pourquoi élaborer un projet de loi du gouvernement pour le proposer à l'Assemblée nationale pour voter? Pourquoi il a mis en place une agence de lutte contre l'esclavage ou ce qu'elle prétend être laissé que l'esclavage? Pourquoi élaborer une feuille de route qui parle de l'esclavage si l'esclavage n'existe pas? Moi, je crois que la masse des Haratines est en désaveu clair aux esclavagistes, au président Abdelaziz. C'est une masse qui consiste à appuyer et à soutenir la position d'Irak qui a toujours lutté contre l'esclavagisme. Nous, on ne parle pas de ce qu'il y a l'esclavagisme, bel et bien. Abdelaziz aura beau à dire l'esclavagisme existe, et tous les cas d'esclavage qui ont été portés devant les juridictions nationales n'ont pas connu de suite, puisque les juges, même, c'est des esclavagistes. On va mettre en place une juridiction spécialisée. Et dans l'esclavage, si l'esclavage n'existe pas, quand même, une chose est son contraire, il ne faut pas exister en même temps.
Et qu'en est-il des militants de l'IRA, d'ailleurs, qui sont condamnés à 2 ans de prison, notamment Biram Ould Abeid?
Les militants de l'IRA continuent toujours à croupir injustement dans des prisons. Depuis qu'ils ont été jugés à Rosso, le collectif d'avocats avait introduit un appel qui n'a pas connu de suite jusqu'à présent. Nous sommes toujours en train d'attendre. On ne sait même pas quelle est la juridiction qui est compétente, puisque tout récemment, le bâtonnier, qui est le président du collectif, a été saisi par le procureur de la République Nansop. Celui-ci a dit que, ou bien ils veulent faire passer le jugement de l'appel au niveau d'Aleg. Or, Aleg, ils sont détenus dans un centre pénitentiaire qui ne dépend pas de la cour d'appel qui est susceptible de les juger, en l'occurrence celle de Nouakchott. Ça fait partie des entraves depuis le premier jugement qui a consisté à les déférer de Rosso à Aleg dans une autre cour d'appel dont le centre pénitentiaire d'Aleg ne dépend pas.
Mohamed Ould Abdelaziz vous accuse, vous, les ONG, d'utiliser l'esclavage comme fonds de commerce pour la gloire.
Ça, c'est c'est son point de vue que je considère comme toujours erroné. Je ne parle pas seulement de la Mauritanie, le monde entier connaît qu'il y a l'esclavage en Mauritanie, le monde entier est en train de comprendre la justesse du combat de l'IRA et les organisations qui œuvrent pour la lutte de l'esclavagisme. Ça, c'est son point de vue. En étant esclavagiste, il ne pourra dire que cela. Nous le dérangeons à travers cette lutte contre l'esclavagisme, mais sur le plan politique également. Biram, qui était candidat aux élections présidentielles, a bien dérangé le président Abdelaziz. C'est, entre autres, une des raisons pour laquelle Biram et ses camarades, Ibrahim et Djibisson, qui se retrouvent aujourd'hui tous vivant en prison. Ce n'est pas quelque chose de justifié. Ça n'a pas de sens. Combien de cas d'esclavage il a porté devant les juridictions nationales? Aucun cas n'a connu un jour. Aucun, je dis.
Ahmed Tidjane Diop, membre du mouvement abolitionniste IRA en Mauritanie.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré ce jeudi à la police américaine. Une nouvelle fois, un Africain-Américain est mort entre les mains de la police, cette fois à Baltimore. L'histoire se répète donc dans l'Amérique post-raciale de Barack Obama. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la marche de l'opposition interdite par le gouvernement béninois pour cause de risque perceptible de troubles s'est quand même déroulée mercredi à Cotonou. Mais elle a été stoppée quelques centaines de mètres plus loin par les forces de l'ordre. Celles-ci ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Certains des protestataires ont commis des actes de vandalisme et brûlé des pneus sur la chaussée des principales voies de la capitale économique du Bénin. D'autres précisions avec notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
C'est par ce cri que les militants des forces démocratiques de l'opposition ont entrepris la marche de ce jour pour dire non à la tentative d'arrestation de Kondida Zenaï. Toutes les forces de l'opposition avec à leur tête leurs différents leaders qui disent par cette marche soutenir leurs camarades malmenés par le pouvoir en place étaient au point de départ de cette marche. Léa Divina Yonsoglo, président de la Renaissance du Bénin, Saka Fikara et Lazare Serwitor, membre de l'Union Faire la Nation.
Ce qui s'est passé avec l'honorable Kondida Zenaï est très grave. On a voulu purement et simplement l'enlever.
Et nous voulons la paix, mais pas l'esclavage. Yahi Boni, théoriquement, à 10 mois de la fin, veut faire une démonstration de force. Son idée est toujours dans sa tête. Il ne veut pas partir. Il faut que nous puissions nous battre pour que les libertés soient respectées, que la constitution soit respectée, pour que Yahi Boni parte.
On est là d'abord d'un côté pour qu'il n'y ait pas d'excès, de l'autre pour que la liberté ne soit pas embrigadée. Et il n'y aura pas d'excès. Les services d'ordre sont formels là-dessus. S'il y a un provocateur qui veut faire des excès, on va le maîtriser. On est là dans un ordre républicain. On est là dans une sérénité, dans la sérénité. Mais cette marche a lieu et elle continuera.
Interdite, la marche n'a pu arriver à destination. Face à l'intransigeance des forces de l'ordre, les marcheurs se sont frayés d'autres chemins, donnant du fil à retordre aux hommes en armes aux alentours du domicile du chef de l'État à Kadiaoui, dans le 12e arrondissement. Ces hommes en armes ont encore eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule. L'opposition béninoise va-t-elle s'en arrêter là? Les heures qui viennent, nous le dirons. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Rouge et Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Rouge et Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, la mise en onde était assurée par Michel Joseph. Au micro, Camille Grosdidier pour l'actualité du jour. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook ou encore sur notre site internet voafrique.com. Et en attendant de vous rejoindre, nous vous souhaitons tous une très bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Camille Grosdidier et Michel Joseph, bonjour. Au sommaire de ce jeudi 7 mai 2015,
la crise burundaise a provoqué l'exode de près de 40 000 personnes qui ont trouvé refuge dans les pays voisins.
Un sommet régional se tiendra le 13 mai en Tanzanie pour tenter d'enrayer la crise politique au Burundi.
C'est Bernard Membe, ministre tanzanien des Affaires étrangères, qui a annoncé ce sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est le 13 mai à Dar es Salaam.
Tous les détails dans un instant avec Eddie Sango.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé en Arabie Saoudite pour discuter de la crise au Yémen.
La marche de l'opposition interdite par le gouvernement béninois s'est quand même déroulée mercredi à Cotonou.
C'est par ce cri que les militants des forces démocratiques de l'opposition ont entrepris la marche de ce jour pour dire non à la tentative d'arrestation de Kondida Zenaï.
On suivra le bilan de Peggy Ludovic Dagba.
La concentration de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère a atteint un niveau record au mois de mars à travers le monde.
Mais tout d'abord, le journal. La crise burundaise a provoqué l'exode de près de 40 000 personnes qui ont trouvé refuge dans les pays voisins. C'est ce qu'affirme un nouveau bilan communiqué mercredi par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Sur ce total, plus de 24 000 ont fui au Rwanda, près de 7 000 en Tanzanie et plus de 7 300 en République démocratique du Congo. Le HCR note en outre que ces chiffres augmentent rapidement et que nombre de réfugiés ne se sont pas fait enregistrer comme tels. Le bilan établi par le HCR porte sur le mois écoulé, mais la tension ne cesse d'augmenter, le parti du président Pierre Nkurunziza l'ayant désigné pour briguer un troisième mandat lors du scrutin prévu en juin.
Un sommet régional se tiendra le 13 mai en Tanzanie pour tenter d'enrayer la crise politique au Burundi. Le point avec Eddie Isango.
C'est Bernard Membe, ministre tanzanien des Affaires étrangères, qui a annoncé ce sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est le 13 mai à Dar es Salaam. C'était suite à la visite des quatre ministres des Affaires étrangères de la région à Bujumbura, où ils ont rencontré les présidents Nkurunziza, puis des leaders de la société civile et des partis politiques. Les chefs de l'État, Pierre Nkurunziza, déjà élu en 2005 par les parlements et réélu en 2010 au suffrage universel direct, a été investi le 25 avril par son parti, les CNDD-FDD, pour briguer un troisième mandat. Depuis, les manifestations quotidiennes sont sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Hier, dans certains quartiers de Bujumbura, des policiers ont ouvert le feu pour disperser les opposants et la tension a été vive entre les manifestants et les Imbonerakure, du nom d'une milice proche du pouvoir. Les violences ont fait 14 morts depuis le début des manifs. Craignant les pires, près de 25 000 Burundais ont fui pour se réfugier au Rwanda et en RDC.
Plus d'une cinquantaine de morts dans un village du nord-ouest du Kenya suite à des violences intercommunautaires liées à des vols de bétail. Selon la Croix-Rouge locale, 350 personnes ont dû fuir leur domicile.
Les attaques ont commencé lundi, précise la police, lorsque des assaillants armés ont attaqué un village turkana et volé du bétail, tuant également 7 personnes. Ce qui a déclenché des représailles des Turkana. Ce type d'affrontement, qui survient régulièrement dans la région, est devenu plus sanglant au fur et à mesure que les protagonistes accèdent aux armes à feu.
Burkina Faso, la veuve de Thomas Sankara, exilée en France depuis l'assassinat de son époux en 1987, sera entendue par le juge d'instruction militaire le 18 mai à Ouagadougou. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Mariam Sankara est attendue le 14 mai à Ouagadougou. Pour sûr, il y aura une marée humaine pour l'accueillir. Selon maître Benewende Stanislas Sankara, elle sera entendue le 18 mai par le juge d'instruction militaire qui s'occupe du dossier. Madame Sankara vit à Montpellier depuis 1987. Elle n'est revenue dans son pays qu'une seule fois, en 2007, 20 ans après l'assassinat de son mari Thomas Sankara. Au cimetière de Dagnoouin, dans l'est de Ouaga, une tombe affiche le nom du héros de la révolution burkinabé, mais ses restes n'ont jamais été identifiés. Le gouvernement vient de donner son feu vert pour l'exhumation du corps, dans le but de l'identifier formellement. Le capitaine Thomas Sankara, arrivé aux affaires par un coup d'État en 1983, a été tué 4 ans plus tard, lors du putsch qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. Monsieur Compaoré, après 27 ans de règne, a été renversé le 31 octobre dernier par une insurrection populaire.
Après avoir fait escale à Djibouti, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé en Arabie Saoudite pour discuter de la crise au Yémen. Ici à Aqaba.
Selon l'envoyé spécial de la VOA, Pam Dawkins, le chef de la diplomatie américaine, a aussi annoncé une nouvelle aide de 68 millions de dollars pour le Yémen. Ces fonds appuieront les agences qui fournissent vivres, eau, abris et autres à 16 millions de Yéménites dans le besoin. L'Arabie Saoudite, pour rappel, a mené des raids aériens au Yémen contre les rebelles chiites Houthis qui cherchent à renverser le gouvernement de Sanaa. Monsieur Kerry a rencontré à Djibouti le président Ismaël Omar Guelleh et son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Il les a remerciés pour leur assistance à des centaines d'Américains qui se sont réfugiés à Djibouti pour fuir la violence au Yémen, tout juste de l'autre côté du golfe d'Aden. Tout comme il l'a été en Somalie, John Kerry est également le premier secrétaire d'État américain à visiter Djibouti, où il a aussi rencontré les officiels américains au camp Lémonier. Cette base, dans l'ancienne colonie française de Djibouti, est devenue une partie importante de la présence militaire américaine au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 45 millions de Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives susceptibles de façonner l'avenir même du Royaume-Uni entre sortie de l'Union européenne et perte de l'Écosse. Des détails avec Morgane Guériac.
Plus de 3900 candidats dans 650 circonscriptions ont fait de la surenchère verbale. La Grande-Bretagne doit choisir entre le conservateur David Cameron, qui brigue un second mandat de 5 ans, et son challenger, le travailliste Ed Miliband. Les sondages projettent des résultats très serrés. Si les conservateurs l'emportent, ils veulent organiser un référendum pour rester ou quitter l'Union européenne. Une victoire des nationalistes écossais pourrait les encourager à revendiquer un nouveau référendum d'indépendance après le rendez-vous manqué de septembre. Les premiers résultats sont attendus autour de minuit en Écosse et à Londres, mais la tenue des locales, en même temps que des législatives, ralentira certainement le dépouillement et la proclamation des résultats définitifs.
La Grèce a honoré mercredi son versement de mai au Fonds monétaire international. Ce virement de 222 millions d'euros en intérêts s'est effectué comme prévu. Mais voilà, on ignore si Athènes sera en mesure de verser 1 milliard de dollars au FMI le 12 mai. Si la Grèce se retrouve en défaut de paiement, elle pourrait être forcée de quitter la zone euro.
Mardi, l'Union européenne a exprimé sa confiance, disant que la Grèce et ses créditeurs feraient tout leur possible pour éviter une telle crise et maintenir le pays au sein de la zone euro.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a conclu un accord avec le Foyer juif, un parti d'extrême droite, qui lui permettra de former une coalition gouvernementale, et ce, juste avant la date limite de mercredi minuit. Le Likoud, dont le chef du gouvernement est issu, et le Foyer juif doivent entériner leur accord. La coalition forgée par Netanyahou sera tout juste majoritaire, puisqu'elle ne regroupe que 61 des 120 membres de la Knesset.
Selon le Pentagone, des militants de l'État islamique menacent de prendre le contrôle de la raffinerie de Baiji, ce qui leur ouvrirait les portes de la ville de Mossoul. Déjà, affirme le porte-parole Stephen Warren, les militants contrôlent une partie des installations. Des unités irakiennes sont toujours retranchées à l'intérieur, mais toute tentative pour élargir leur contrôle donnerait lieu à des combats acharnés.
L'un des 6 policiers de Baltimore impliqués dans l'arrestation de Freddie Gray et qui doit répondre de plusieurs chefs d'inculpation, dont ceux de meurtre et de violence volontaire, affirme que le couteau dont était armé Gray était illégal. En conséquence, la police aurait agi conformément à la loi en interpellant le jeune noir. On fait valoir les avocats du policier Edward Nero, qui demande à voir le couteau en question.
Le décès de Freddie Gray, de blessures survenues dans le fourgon qui l'emportait après son arrestation, a provoqué de violentes manifestations à Baltimore qui ont conduit les autorités à instaurer un couvre-feu levé une fois le calme revenu.
La concentration de dioxyde de carbone, le CO2, dans l'atmosphère a atteint un niveau record au mois de mars, dépassant pour la première fois le seuil des 400 parties par million. Selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique, ce seuil avait déjà été atteint en 2012 dans l'Arctique et à Hawaï en 2013. Mais voilà, c'est la première fois depuis que l'agence conserve ces statistiques que le seuil des 400 parties par million est atteint en moyenne dans l'ensemble du monde. Et maintenant, la Minute Éco avec Félix Yepasis Zembrou. Bonjour.
Le Zimbabwe a lancé un appel à la reprise de l'aide internationale directe aux pays d'Afrique australe. L'ambassadeur américain à Harare, Bruce Wharton, a expliqué suite à cet appel ce que les États-Unis aimeraient voir s'accomplir avant de reprendre l'aide directe.
Nous pensons que le fondement de tout est la règle de droit. Deuxièmement, je pense à la mise en œuvre de la nouvelle constitution. Troisièmement, nous pensons que le respect clair de la propriété privée est absolument crucial pour relancer l'économie. Quatrièmement, enfin, il faut un cadre d'investissement très clair et transparent afin que quelqu'un qui pense investir au Zimbabwe sache clairement quelles sont les règles et qu'il peut compter sur elles sans variation
spatio-temporelle.
La Commission européenne a lancé mercredi une vaste enquête sectorielle sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du commerce électronique au sein de l'UE. Cette enquête concernera autant les biens que les contenus numériques, ce qui place en ligne de mire les géants américains d'Internet comme Amazon et Google. Les assemblées annuelles de la BAD se tiendront cette année du lundi 25 au vendredi 29 mai 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Ces assemblées annuelles vont commémorer les 50 années de la contribution de la Banque au développement de l'Afrique et un nouveau président du groupe de la BAD sera élu.
On enchaîne avec les sports. Présentation Bagassi Koura. Bonjour.
Oui, bonjour Camille.
Football européen avec la fin des demi-finales allées de la Ligue des Champions.
Hier soir, le FC Barcelone a pris sa revanche en humiliant le Bayern Munich 3-0, un doublé de Messi à la 77e et 80e minute. Et à la toute dernière minute du match, Neymar a marqué le but du chaos. Autant dire que le retour en Bavière s'annonce difficile pour les Allemands.
Football au Bénin?
Oui, affaire du retrait de l'agrément à la Fédération béninoise de football. Un émissaire de la FIFA est à Cotonou pour constater les différents problèmes que le foot béninois traverse actuellement. Élisée Mpatine nous en dit plus.
Au cours de son séjour, Primo Covaro a rencontré les membres du comité olympique et sportif béninois, ceux de la Fédération béninoise de football et surtout le ministre des Sports pour justement rédiger un rapport à la FIFA. Et c'est par rapport à cela que l'instance qui dirige le football au niveau mondial va déterminer si le gouvernement béninois a fait preuve d'ingérence vis-à-vis de la fédération et surtout les sanctions qui vont suivre. Après avoir écouté tous les acteurs, Covaro, lors d'un point de presse, a rappelé l'importance de cette discipline.
La priorité pour nous tous, c'est que le ballon roule. Donc, il faut savoir réaliser cet objectif, bien en prendre conscience et pouvoir surmonter.
Élisée Rumpati, Boïcon, La Voix de l'Amérique.
Et puis en demi-finale du championnat nord-américain de basketball, eh bien toute la soirée, les Cavaliers de Cleveland ont largement devancé les Bulls de Chicago. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils se soient séparés sur le score de 106-91. Chicago n'ayant jamais rattrapé son retard. Par contre, les Houston Rockets et les Los Angeles Clippers étaient plutôt coude à coude durant toute la soirée. Mais voilà, le duel s'est terminé par la victoire de Houston, 115-109. James Harden a marqué 32 points. Enfin, quelques mots sur un scandale qui secoue le football américain avec la publication d'un rapport d'enquête de la NFL, la National Football League. Voilà, des employés des Patriots de la Nouvelle-Angleterre auraient volontairement dégonflé les ballons de football américain utilisés lors d'un match de championnat de l'association américaine. De surcroît, le quart arrière Tom Brady, vedette du Super Bowl, aurait été généralement au fait de la situation, peut-on lire dans les conclusions de l'enquête. Brady a démenti avoir enfreint la moindre règle. Les ballons dégonflés sont plus faciles à agripper et à capter. Certains quarts préfèrent les ballons qui contiennent moins d'air. Mais Brady a souvent répété qu'il n'a jamais demandé qu'on dégonfle les ballons en deçà de la limite permise. Voilà pour les nouvelles.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidier pour vous présenter les dossiers du jour. Au Nigeria, Maïdougouri, capitale de l'État de Borno et berceau des islamistes de Boko Haram, se remet progressivement des années de terreur. Toutefois, les nombreux déplacés qui y ont trouvé refuge ne savent où aller. Pour avoir une idée de la situation, Timothée Donongmaï a joint Maïdougouri, un habitant qui nous a souvent parlé au plus fort de la crise et qui, pour des raisons de sécurité, témoigne toujours sous anonymat.
Les gens circulent librement. Officiellement, il y a le couvre-feu à partir de 19h. Mais les gens circulent jusqu'à 10h, 10h du soir. Ils sont dans la rue et il n'y a aucun canon ni à la périphérie de la ville. Tout est calme. Les gens attendent le retour officiel dans leur village, dans leur localité. Et ce qui fait retarder les gens à retourner chez eux, c'est surtout le fait qu'ils n'ont plus rien à la maison. Les villages ont été calcinés. On a mis le feu sur toutes les maisons, toutes les écoles. Et donc, il y a tout à recommencer dans presque tous les villages. Et donc, c'est ça qui fait retarder les gens. Mais si on leur donnait les moyens de rentrer avec les assurances d'abri chez eux, en tout cas, tous les réfugiés que nous avons à Maïdougouri seraient déjà tous partis.
Le gouvernement continue d'annoncer la libération d'anciens otages de Boko Haram. Est-ce que vous en avez vu? Vous en avez des nouvelles?
On annonce des pareilles nouvelles tous les jours. Mais il faut être prudent, parce que ça fait plusieurs années que l'armée nous ment. L'armée est de connivence avec certains politiciens et les commandants des armées. Ils nous mentaient tous les jours, tous les jours. On nous dit toujours qu'on a récupéré telle localité, on a récupéré tel village, on a tué tous les Boko Haram, mais on ne les voit pas, on ne les voit jamais. On n'a jamais capturé, ne serait-ce qu'une personne à qui on peut poser des questions et qu'on peut voir sur un écran, même en train de passer un jugement public. Donc, on sait que dans nos têtes, cette histoire, ces agents Boko Haram restent comme des mystérieuses personnes. Et nous, on attend voir des gens. Il faut qu'on sache la vérité. Parce que je ne peux pas vous cacher, cette histoire de Boko Haram va laisser des rancœurs dans les cœurs de beaucoup de gens. Surtout, ceux qui ont souffert comme nous, on ne va jamais oublier ça parce que nous avons perdu des gens trop chers.
Que pensez-vous de cette offensive de l'armée gouvernementale contre la forêt de Sambisa où se seraient retranchés les insurgés de Boko Haram?
Ils font du théâtre, comme je vous dis. C'est des montages. Ils sont en train de récupérer les choses qu'eux-mêmes leur avaient prêtées. Maintenant que le contrat est résilié, et donc, c'est ce que la population dit, hein. Ce n'est pas ma vision. Mais dans la rue, c'est ce qu'on raconte. Parce que depuis 6 ans, ils ont été incapables de démanteler l'endroit-là. Pourquoi c'est maintenant?
On écoutait un habitant de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, au Nigeria. Le
Liberia, on passe d'émerger de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Ce pays qui espère être déclaré libre du virus Ebola dans deux jours, d'ici à samedi, a élaboré un plan de relance de son économie. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Faisant remarquer que son pays n'a pas enregistré de nouveaux cas ces derniers temps, le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie, Axel Hadi, a dit que la ligne d'arrivée est proche.
So May 9th is our magic date.
Ainsi donc, le 9 mai est notre date magique. S'il n'y a pas de nouveaux cas, et je pense qu'il n'y en aura pas, nous aurons atteint la date butoir. Certains centres de traitement ont été fermés et d'autres sont en train de l'être, a-t-il expliqué. Conscient que le virus Ebola pourrait réapparaître, le gouvernement a mis en place un système de gestion pour faire face à toute urgence, a indiqué Axel Hadi. Cela inclut la mise en place de l'infrastructure médicale appropriée, le traçage de tous les cas potentiels et la surveillance de la situation aux frontières, a expliqué le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie. En plus de la nécessité de renforcer son système de santé et de protéger ses citoyens contre une nouvelle épidémie, le Libéria est aussi confronté à l'immense tâche de relance de son économie. Avant que l'Ebola ne réduise tout à néant, le pays projetait un taux de croissance du PIB entre 5,9% et 7%. Avec les ravages de la crise sanitaire, ce taux s'est retrouvé en dessous d'1%. Selon le ministre d'État sans portefeuille Augustin Jarrett, l'Ebola a eu un effet de cascade sur tous les aspects de l'économie nationale, en particulier en ce qui concerne les principales exportations du pays, à savoir le caoutchouc et le minerai de fer. Des compagnies ont fermé, coûtant à des milliers de personnes leurs emplois. Les champs n'ont pas été cultivés, privant des milliers d'agriculteurs de leurs sources de revenus. Le pays doit diversifier son économie, a dit M. Jarrett, ajoutant que le gouvernement entend désormais accorder la priorité au secteur privé. Ce que nous avons vu depuis plusieurs décennies, c'est que la plupart des travailleurs étaient employés dans le secteur public et cela va changer. Nous nous focaliserons sur le secteur privé, les emplois et les investissements du secteur privé et tenterons d'orienter l'économie dans une direction où les acteurs du secteur privé seront les moteurs de la croissance et de la vitalité économique, a déclaré le ministre d'État libérien Augustin Jarrett. Le gouvernement libérien a su travailler avec ardeur à attirer les investissements privés pour aider à reconstruire les infrastructures, notamment à relancer les grands chantiers routiers et autres projets de construction à l'arrêt du fait de l'épidémie d'Ebola. Le secteur agricole qui emploie 70% de la force de travail au Libéria nécessite de grands investissements, estiment les autorités libériennes.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidi avec vous. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré que l'esclavage n'existe plus dans son pays, mais qu'il reste des séquelles. Il accuse les ONG de faire de l'esclavage un fonds de commerce. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ahmed Tidjane Diop, membre du mouvement abolitionniste IRA et directeur de campagne de Biram Oub Abeid, le militant anti-esclavagiste condamné à 2 ans de réclusion.
La vision du président Mohamed Ould Abdelaziz est une vision erronée quand il dit qu'il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. C'est une position qui a été toujours défendue par tous les esclavagistes, par tous les morts à la tête desquels se trouve Abdelaziz. Le dispositif que le président Mohamed Abdelaziz est en train de mettre en place prouve une fois encore que l'esclavage existe et existe bien. Si l'esclavage n'existait pas, pourquoi élaborer un projet de loi du gouvernement pour le proposer à l'Assemblée nationale pour voter? Pourquoi il a mis en place une agence de lutte contre l'esclavage ou ce qu'elle prétend être laissé que l'esclavage? Pourquoi élaborer une feuille de route qui parle de l'esclavage si l'esclavage n'existe pas? Moi, je crois que la masse des Haratines est en désaveu clair aux esclavagistes, au président Abdelaziz. C'est une masse qui consiste à appuyer et à soutenir la position d'Irak qui a toujours lutté contre l'esclavagisme. Nous, on ne parle pas de ce qu'il y a l'esclavagisme, bel et bien. Abdelaziz aura beau à dire, l'esclavagisme existe. Et tous les cas d'esclavage qui ont été portés devant les juridictions nationales n'ont pas connu de suite, puisque les juges, même, c'est des esclavagistes. On va mettre en place une juridiction spécialisée et dans l'esclavage aussi, l'esclavage n'existe pas. Quand même, une chose et son contraire, il ne faut pas exister en même temps.
Et qu'en est-il des militants de l'IRA d'ailleurs qui sont condamnés à 2 ans de prison, notamment Biram Ould Abeid?
Les militants de l'IRA continuent toujours à croupir injustement dans des prisons. Depuis qu'ils ont été jugés à Rosso, le collectif d'avocats avait introduit un appel qui n'a pas connu de suite jusqu'à présent. Nous sommes toujours en train d'attendre. On ne sait même pas quelle est la juridiction qui est compétente, puisque tout récemment, le bâtonnier qui est le président du collectif a été saisi par le procureur de la République Nassar. Celui-ci a dit que, ou bien ils veulent faire passer le jugement de l'appel au niveau d'Alec. Or, Alec, ils sont détenus dans un centre pénitentiaire qui ne dépend pas de la cour d'appel qui est susceptible de les juger, en l'occurrence celle de Nouakchott. Ça fait partie des entraves depuis le premier jugement qui a consisté à les déférer de Rosso à Alec dans une autre cour d'appel dont le centre pénitentiaire d'Alec ne dépend pas.
Mohamed Oul Aziz vous accuse, vous, les ONG, d'utiliser l'esclavage comme fonds de commerce pour la gloire.
Ça, c'est son point de vue que je considère comme toujours erroné. Je ne parle pas seulement de la Mouton. Le monde entier connaît qu'il y a l'esclavage en Mouton. Le monde entier est en train de comprendre la justesse du combat de l'IRA et les organisations qui œuvrent pour la lutte de l'esclavagisme. Ça, c'est son point de vue. En étant esclavagiste, il ne pourra dire que cela. Nous le dérangeons à travers cette lutte contre l'esclavagisme, mais sur le plan politique également. Biram, qui était candidat à l'élection présidentielle, a bien dérangé le président Abdelaziz. C'est, entre autres, une des raisons pour laquelle Biram et ses camarades, Ibrahim et Djibisso, qui se retrouvent aujourd'hui tous en prison. Ce n'est pas quelque chose de justifié. Ça n'a pas de sens. Combien de cas d'esclavage il a porté devant les juridictions nationales? Aucun cas n'a connu un jugement. Aucun, je dis.
Ahmed Tidjane Diop, membre du mouvement abolitionniste IRA en Mauritanie.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré ce jeudi à la police américaine. Une nouvelle fois, un Africain-Américain est mort entre les mains de la police, cette fois à Baltimore. L'histoire se répète donc dans l'Amérique post-raciale de Barack Obama. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h temps universel sur VOA Afrique.
Ici Washington, la marche de l'opposition interdite par le gouvernement béninois pour cause de risques perceptibles de troubles s'est quand même déroulée mercredi à Cotonou. Mais elle a été stoppée quelques centaines de mètres plus loin par les forces de l'ordre. Celles-ci ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Certains des protestataires ont commis des actes de vandalisme et brûlé des pneus sur la chaussée des principales voies de la capitale économique du Bénin. D'autres précisions avec notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
C'est par ces cris que les militants des forces démocratiques de l'opposition ont entrepris la marche de ce jour pour dire non à la tentative d'arrestation de Kondida Zenaï. Toutes les forces de l'opposition avec à leur tête leurs différents leaders qui disent par cette marche soutenir leurs camarades malmenés par le pouvoir en place étaient au point de départ de cette marche. Léa Livina Yonsoglo, président de la Renaissance du Bénin, Saka Fikara et Lazare Serwitor, membre de l'Union Fait la Nation.
Ce qui s'est passé avec l'honorable candidat Zanaï est très grave. On a voulu purement et simplement l'enlever.
Et nous voulons la paix, mais pas l'esclavage. Yahi Boni, théoriquement, à 10 mois de la fin, veut faire une démonstration de force. Son idée est toujours dans sa tête. Il ne veut pas partir. Il faut que nous puissions nous battre pour que les libertés soient respectées, que la constitution soit respectée, pour que Yahi Boni parte.
On est là d'abord d'un côté pour qu'il n'y ait pas d'excès, de l'autre pour que la liberté ne soit pas embrigadée. Et il n'y aura pas d'excès. Les services d'ordre sont formels là-dessus. S'il y a un provocateur qui veut faire des excès, on va le maîtriser. On est là dans un ordre républicain. On est là dans une sérénité, dans la sérénité. Mais cette marche a lieu et elle continuera.
Interdite, la marche n'a pu arriver à destination. Face à l'intransigeance des forces de l'ordre, les marcheurs se sont frayés d'autres chemins, donnant du fil à retordre aux hommes en armes aux alentours du domicile du chef de l'État à Kadian, dans le 12e arrondissement. Ces hommes en armes ont encore eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule. L'opposition béninoise va-t-elle s'en arrêter là? Les heures qui viennent, nous le dirons. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique.
Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Au micro, Camille Grosdidier pour l'actualité du jour. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook ou encore sur notre site internet voafrique.com. Et en attendant de vous rejoindre, nous vous souhaitons tous une très bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.